marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Et notre témoin de ce vendredi, Pierre Assouline, retour à Séfarade.
Quand vous étiez enfant, quel était le regard qui était porté sur l'Espagne ?
On avait une attirance vers les Espagnols inexplicable. S'il y en avait un film espagnol qui passait, on était fou de joie. On allait, on chantait, on apprenait les chansons de deux films, on dansait, on parlait. C'est plus fort que nous.
Les Séfarades sont les descendants des Juifs qui ont vécu en Espagne jusqu'à l'expulsion. Leur ultime dispersion eut lieu en 1492 et plus de 5 siècles après, ils ont, génération après génération, tenté de préserver nombre d'usages de l'Espagne et d'abord celui de la langue. On ne voit pas que les Juifs de Pologne, par exemple, éprouvent un pareil désir violent de Pologne. La terre d'Espagne, c'était autre chose, bien mieux qu'un lieu de passage. On pourrait presque parler d'un foyer, si cela ne faisait pas froncer les sourcils à Israël. C'est ainsi, les Séfarades sont souvent atteints d'un fantasme hispanique. Pierre Assouline se dit même ibéro-dépendant. Aussi, tous ses sens sont-ils en éveil lorsque Juan Carlos, en 1992, à l'occasion de l'anniversaire de l'expulsion, adresse un salut appuyé aux Séfarades et qu'ensuite son fils, Felipe VI, leur dit « Vous nous avez manqué ». D'ailleurs, une loi est votée au Cortés qui leur permet de retrouver la nationalité espagnole. Décidément, on ne sait rien de ce que peut réserver le passé. Quand il se rouvre ainsi, il faut s'y engouffrer. Voici le récit d'un homme qui a décidé de tirer parti de cette loi. Son parcours sera traversé de beaucoup de difficultés. On n'imagine jamais ce que peut réserver l'administration. Une inquiétude surtout va le gagner. Il est un candidat à la nationalité espagnole venu du fond des âges. Les habitants du pays l'identifient à de nombreux signes. Mais il n'est pas Ulysse revenu à Ithaque. En revanche, à la différence d'Ulysse, personne ne l'attend, ni Pénélope, ni Télémaque. Le foyer imaginé peut-il en être un ? Et le Séfarade va-t-il perpétuellement rester sur son seuil ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Pierre Assouline, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Un livre donc chez Gallimard, retour à Séfarade. Ça va être très compliqué pour le héros de ce livre. Je ne sais si c'est un récit, si c'est un roman, peu importe. Il va devoir... Dites-nous toutes les étapes administratives qu'il faut remplir, prouver sa nationalité française.
On va croire que c'est un roman administratif. Bon, les étapes, vous savez, sont celles de l'administration dans tous les pays. Car devenir français, c'est aussi très compliqué. Mais là, il s'agit de redevenir espagnol, 5 siècles après. Donc c'est un peu particulier. La loi donc propose aux Séfarades et aux descendants des Séfarades de demander leur nationalité et on leur accorde. Mais tout de même, il faut passer par le consulat, premièrement. Deuxièmement, il faut déposer un dossier. Dans ce dossier, il faut un casier judiciaire vierge. Mais encore faut-il obtenir le papier. Une fois qu'on l'a obtenu, on croit que c'est fini. Non, il faut le faire apostiller. On le fait apostiller à Nantes. Et là, on vous dit non, c'est pas à Nantes, c'est à Rennes. Donc on va à Rennes. Tout ça prend du temps. Et si ça prend plus que 3 mois, quand vous l'avez, on vous dit, ben oui, mais c'est plus valable. Il faut faire une nouvelle demande de casier judiciaire. Bref, il faut un diplôme de l'Institut Cervantes attestant de votre niveau de langue espagnole. Un autre du même institut attestant de votre niveau de culture espagnole. Et puis, il faut et surtout un papier attestant de vos origines séfarades.
Ouais.
Séfarades, donc juifs séfarades.
Il faut un certificat.
D'Espagne. Un certificat. Et ce papier, comment l'obtenir ? Parce que beaucoup de gens ont perdu, évidemment, leur papier depuis nombre de déménagements en 5 siècles. Donc, pour ça, il faut passer par la Fédération juive espagnole à Madrid, qui vous demande, par exemple, les certificats de mariage de vos parents, de vos grands-parents, parfois de vos arrière-grands-parents, ça va pas de soi.
Donc c'est un roman administratif, j'ai noté la définition que vous en donnez. C'est aussi le récit d'un long périple, de beaucoup de rencontres, de beaucoup de conversations. Reconstitution, mais invention dans un exercice assez étourdissant, il faut le dire, Pierre Assouline. Et un exercice, d'abord, d'historien. On va commencer par raconter ce que vous avez appris progressivement de l'aggravation progressive au cours du Moyen-Âge de la position des Juifs en Espagne. À la fin du XIIIe siècle, 1263, il y avait encore à Barcelone, enfin Barcelone c'était la couronne d'Aragon, une controverse qui pouvait s'ouvrir entre un grand rabbin et un grand dominicain devant leur roi.
J'ai voulu remettre en scène, par exemple, effectivement, une controverse célèbre avec celui qu'on appelait Namanide, qui était un grand savant, médecin, et avec ceux qui le contredisaient, qui étaient d'ailleurs des juifs convertis au christianisme, hein, parce qu'on est en permanence entre des juifs qui veulent le rester et d'anciens juifs qu'on appelle les nuevos cristianos, les nouveaux chrétiens, et qui en font 10 fois trop. Justement à cause de ça. Ne pas oublier que Torquemada est lui-même, l'un grand inquisiteur, un ancien juif converti. Cette controverse porte sur, en quelque sorte, et comme toujours, le Verus Israël, qui est le véritable peuple élu de Dieu. Bon, il y aura d'autres controverses. Il y en aura à Paris, hein, il y en aura ailleurs. Celle-ci était une des plus célèbres, hein, ce qu'on appelle la dispute de Barcelone. Je l'ai remise en scène parce que je marchais dans le palais. Et en fait, ça m'est revenu en mémoire. Non pas que je l'ai vécu dans une mémoire archaïque, mais je l'ai lu, évidemment. Et tout mon...
Enfin, la mémoire date d'avant la naissance.
Bien sûr. C'est pour ça que je parle de mémoire archaïque. Et mais toutes mes pérégrinations dans toute l'Espagne, depuis que j'ai voulu revenir, se font dans cette tension permanente entre ce que j'ai lu, ce que j'ai su, ce que j'ai entendu et les rencontres. Il y en a eu beaucoup.
Une date très importante, les épidémies de peste de 1378 et une première expulsion significative en 1391. C'est d'ailleurs peut-être de cette date-là que daterait le départ de vos aïeux, ou supposés aïeux, depuis l'Espagne jusque.
Alors, c'est parti de Séville, parce qu'à Séville, il y a eu effectivement des massacres de juifs. Il y en a eu tout le temps, hein. Mais comme dans toute l'Europe. Mais là, il y a eu des massacres de juifs et on les a expulsés. Et certains ont quitté l'Espagne de l'époque pour aller au Maroc, dans le sud-est, dans une toute petite ville qui s'appelle Dedbou. Parce qu'on leur a dit, il y a déjà des juifs qui vivent là-bas depuis longtemps, qui y sont heureux, et en plus c'est un carrefour commercial de plusieurs routes. Et donc ils ont été là-bas. Et encore aujourd'hui, il y a sur la place centrale de Dedbou une fontaine qu'on appelle Sbia en arabe, ça veut dire Séville. Donc il y a eu déjà cet échange. Il est possible, puisque moi ma famille a vécu dans les environs de Dedbou et a fait souche là-bas pendant longtemps, en se mélangeant aux berbères, en judaïsant des berbères, et il est fort possible que ce soit là. Mais vous savez, en me lançant dans ce livre, je n'ai pas cherché les traces personnelles de ma famille. Je me suis intéressé avant tout aux séfarades, mais aussi, de manière générale, à la quête d'identité, à la recherche des racines chez tout le monde, en fait.
En 1492, il y a un faisceau d'événements en Espagne, la fin de la Reconquista, le royaume musulman de Grenade tombe, le départ de Christophe Colomb, et puis l'expulsion des Juifs par les rois catholiques.
Nous, Isabelle et Ferdinand, souverains de Castille et d'Aragon, décrétons que les Juifs et les Juives, quel que soit leur âge, qui vivent, demeurent ou se trouvent pour une raison quelconque dans les royaumes et seigneuries, doivent les quitter avant le 1er juillet de cette année avec leurs fils, leurs filles, leurs familles, leurs maisonnées, à l'exception de ceux qui demanderont le baptême. Si contrevenant à l'ordre royal, ils ne quittaient pas le pays ou s'ils y revenaient, ils encourraient la peine de mort et la confiscation de leurs biens. Les Juifs disposeront de 15 jours pour se faire connaître, devant un notaire qui enregistrera leur nom et leur délivrera un certificat. Grenade, 1492.
La majorité des Juifs qui vivaient encore en Espagne étaient devenus, à l'occasion des persécutions précédentes, des nouveaux chrétiens, ceux qui vont choisir de rester et qui croient à la vertu de cet article du décret qui dit « à l'exception de ceux qui demandent le baptême ». vont être sans cesse soupçonnés.
Oui, en fait, quand on parle de l'anti-judaïsme, pardon, faut être précis, de l'anti-judaïsme de l'Inquisition, il va surtout toucher ceux qui vont rester. Parce que ceux qui partent, qui choisissent l'exil, qui sont quand même assez nombreux, hein, vont partir donc dans les deux directions, l'Empire ottoman et le Maroc, et puis le Maghreb, c'est ce qu'on appelle les séfarades aujourd'hui. Mais ceux qui vont rester, et qui donc choisissent de se convertir, ceux-là vont être l'objet, effectivement, du soupçon permanent. Mais le soupçon, il se traduit comment? Ben, il se traduit par, d'abord, de l'espionnage. C'est-à-dire que les agents de l'Inquisition vont aller le samedi matin sur des petites montagnes au-dessus des villages pour regarder quelle est la cheminée qui ne fume pas. Et celle qui ne fume pas, c'est sûrement celle d'un nouveau chrétien qui continue à judaïser en secret. Ça va consister aussi dans les très nombreux ordres religieux, notamment les jésuites, qui vont accueillir énormément de nouveaux chrétiens dans leur rang, à observer pendant la messe ceux qui, dans les moments de pause et de silence, continuent à faire bouger leurs lèvres parce que ça signifie qu'ils judaïsent en secret, ils prient en hébreu pour eux-mêmes. Donc ces gens-là vont être non seulement arrêtés, vont être interrogés, torturés avec des simulacres de procès et très souvent brûlés en place de grève comme hérétiques.
Le soupçon porte sur la pureté du sang, la légitimité du baptême est donc contrebattue puisque ce qui est le plus important, c'est l'introduction du sang étranger dans la race espagnole. Et vous utilisez un mot que vous avez retrouvé, que je trouve assez fort, murmuration, soupçon généralisé.
Soupçon généralisé, qui est un, oui, c'est tout à fait ça. C'est l'ère de la délation aussi. Hein. C'est quelque chose. 1492 est vraiment une date clé dans l'histoire de l'Espagne. Des séfarades, ça va de soi. On a appelé ça la catastrophe, et ne jamais oublier qu'en hébreu, le mot catastrophe se dit Shoah, donc bien avant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été la catastrophe pour les séfarades. C'est une date clé. Et ça va entraîner, quelque chose de mêlé, un souvenir qui va être mêlé, à la fois celui d'une tragédie, car on a quand même arraché des gens à leur terre, sur laquelle ils vivaient depuis des siècles et des siècles. Il y a des juifs dans la péninsule ibérique depuis la destruction du second temple de Jérusalem, donc après 70 après Jésus-Christ. Donc c'est très très ancien. Sous les Visigoths, ils étaient déjà là, et quand l'Espagne a commencé à se constituer, ils étaient déjà là. Et on leur donne 3 mois, en 1492, pour faire leurs valises, pour abandonner leur cimetière, leur synagogue, etc. Donc, ça a été un véritable traumatisme.
Des Juifs ont commencé à se réinstaller au long du XXe siècle. Vous datez de 1931, le premier mariage juif qui a lieu de nouveau en Espagne. En 1960, il suffit d'un appartement pour réunir encore les Juifs de Madrid. À la fin des années 60, est décidée la construction d'une synagogue. Et le roi Juan Carlos y vient en 1992.
Ça, c'est une date. Bon, effectivement, c'est un anniversaire, une commémoration. Alors, évidemment, Juan Carlos n'a pas présenté formellement les excuses de la couronne, mais le cœur y était, d'autant qu'il l'a fait à la grande synagogue de Madrid.
La formalisation de la loi finit par avoir lieu. Et puis, commence le règne de votre roi de cœur, le fils de Juan Carlos, Felipe VI, qui déclare ceci en 2015. Écoutez de toutes vos oreilles, Pierre Assouline.
Queridos sefardíes, gracias por vuestra lealtad y por guardar como un preciado tesoro vuestra lengua, el judeo español o judezmo y también la jaquetía, y vuestras costumbres, que no son otras que las nuestras. Y gracias también por haber hecho prevalecer el amor sobre el rencor, y por haber enseñado a vuestros hijos a amar esta patria española. ¿Cuánto os hemos echado de menos?
Vous parliez de test de langue, on va en faire un de suite. Vous pouvez rassembler la traduction. Il faut surtout marquer le silence qui a isolé l'essentiel du texte de ce qui vient après.
En fait, ce qu'il dit là, c'est qu'il remercie les séfarades pour leur amour de la patrie espagnole et pour leur amour de la langue et pour avoir su transmettre cette passion à leurs enfants, comme eux, on leur a transmis depuis des siècles. D'une part, vous avez conservé la culture, c'est-à-dire les recettes de cuisine, les chansons, les berceuses, c'est très important. Et puis d'autre part, vous avez conservé la langue, qui est restée figée, c'est vrai. C'est normal. On parle, si vous voulez, el viejo castellano, c'est-à-dire le vieux castillan.
Sans rota, par exemple.
La rota n'existait pas à l'époque. Donc on dit je, à la place. Et puis il y a d'autres mots, mais enfin, on se comprend avec les Espagnols. Mais surtout, après la pause que vous signalez, Jean Lebrun, il y a cette phrase qui m'est allée droit au cœur. Comme vous nous avez manqué. Je trouve qu'il y a un courage, une audace de la part du descendant des rois catholiques pour en quelque sorte dire, et c'est ce qu'il a dit même explicitement, cette expulsion a été une erreur historique.
Une amputation, du coup.
Une amputation. C'est quand même extraordinaire. Et là, j'avoue que ce discours-là m'a été droit au cœur, et c'est ça qui m'a décidé à faire cette demande, d'autant que, contrairement à ce qu'avait fait Primo de Rivera, et oui, le dictateur, dans les années 20, en faisant cette même proposition aux Séfarades, il disait, il faut renoncer à votre nationalité. Alors que là, évidemment, je reste français.
Alors, on ne va pas vous faire raconter toutes les procédures, mais il faut que vous nous en disiez un peu plus. Imaginons, vous le faites dans le livre, une réunion de séfarades anonymes. Il y a bien des réunions d'alcooliques anonymes. Il pourrait même y avoir, dites-vous, des réunions d'antisémites anonymes. Alors, une réunion de séfarades anonymes. Ça pourrait se passer comme ça.
Les chrétiens, en Europe, avaient des noms de famille. Pas les juifs, pas les arabes. Les musulmans et les juifs n'avaient pas de nom de famille. Alors c'était le nom du père. Mon père s'appelait Abraham, donc j'étais Daniel ben Abraham. L'autre c'était Ishaq, ben Yosef, ben. Tous ces ben que vous voyez, ça veut dire fils. Alors ils se sont réunis il y a 300 ans, les juifs, ils ont dit on va faire comme les autres. On va prendre des noms de famille. Toi tu es d'où? De Saragosse. Saragosse. I en hébreu veut dire deux. Toi, tu es d'où? Moi, je suis de Jérusalem. Jérusalem-mi. Deux. C'est tout deux. Deux. Sarfati. Ça veut dire, Sarfat en hébreu, c'est France. Deux, France. Sephardi. Sepharad, ça veut dire Espagne. D'Espagne. Ceux qui sont sortis de Toledo ont pris Toledo, de Cordova, etc., etc. C'est comme ça que nous avons des noms, beaucoup de juifs ont des noms espagnols. Mon nom est espagnol. Alcalay, Alcala, la ville de Alcala de Henares, près de Madrid, là où est né Cervantes. Mes ancêtres, mes aïeux, disons, habitaient Alcala.
Ah, le nom, c'est puissant, dites-vous, Pierre Assouline, et puis c'est révélateur et en même temps dissimulateur. Cervantes, déjà, moi.
Oui, sur Cervantes, on a dit qu'il était d'origine marane, mais on l'a dit aussi de la famille de Franco y Bahamond, dictateur. Vous savez, en Espagne, très vite, on s'aperçoit qu'énormément de gens savent, sont conscients ou pas, ou devinent ou pas, qu'ils ont des origines juives ou maranes.
Les noms, Assouline par exemple, bon, vous avez les yeux bleus, Azoul, Assouline, oui d'accord. Mais...
Alors, il y a cette tradition de dire, enfin dans la famille, il y a deux traditions orales, d'une part Assoul, bleu, et dans notre famille, de génération en génération, il y en a toujours un qui a les yeux bleus. Mais à part ça, il y a aussi le fait que Assouline est un nom, un mot berbère qui signifie le rocher en tamazigue, qui est la langue berbère. Et donc il y a ce mélange. Mais quand on parle des noms, on parle toujours des noms paternels. On oublie qu'on est né d'un homme et d'une femme, en principe, et qu'il y a aussi le nom de la mère. Et dans mon cas, ce sont des Juifs de Tétouan, donc qui étaient très hispanisés, qui venaient de Livourne, en Italie, qui était évidemment une communauté très importante, mais séfarade, qui arrivait d'Espagne. Mais quand on s'appelle Toledano, Marciano, bon, c'est évident.
Oui, mais enfin, quand on s'appelle Castellano, c'est dissimulateur.
Aussi, mais tout est dissimulateur, mais la plupart des gens, aujourd'hui, disent, mais oui, probablement, notre nom est d'origine juive, ça fait aucun doute, et puis, on en parle comme ça, il n'y a pas de problème.
Et puis, combien ont peut-être inventé le fait que, dans la tradition familiale, était conservée une clé de la maison abandonnée?
Où est la clé qui était dans le coffre? Mes grands-parents l'amenèrent avec beaucoup de douleur de leur maison d'Espagne, rêve d'Espagne. Où est la clé qui était dans le coffre? Mes grands-parents l'amenèrent avec beaucoup d'amour Ils dirent à leurs enfants, « Voici le cœur de notre maison d'Espagne, d'Espagne, rêve d'Espagne. » Où est la clé qui était dans le coffre? Mes grands-parents l'amenèrent avec beaucoup d'amour, ils la donnèrent à leurs petits-enfants pour qu'ils la mettent dans le coffre, notre clé d'Espagne, d'Espagne, rêve d'Espagne.
Retour à Séfarad chez Gallimard, Pierre Assouline raconte ses nombreux voyages d'enfance en Espagne, quand les femmes étaient encore presque toutes en noir. Et puis, vous racontez la vie avec votre frère qui rapportait dans la maison familiale au Maroc des disques de Segovia. On entendait ici Narciso Yepes et votre frère qui va disparaître en Espagne.
Oui, ça fait partie de cette histoire, pour enfin une histoire personnelle bien sûr. Donc pour moi, il y a eu une coupure, bien entendu une cassure avec à 16 ans la perte du frère, mais aussi avec l'Espagne, puisqu'à ce moment-là, l'Espagne a incarné la mort, et non plus la vie, à mes yeux, d'adolescent.
Il est mort d'un accident de
voiture. D'un accident de la route sur une route d'Espagne. Et donc, j'ai pris mes distances avec ce pays, je me suis rapproché après, mais... Voilà, pour moi, ce pays reste celui de la vie et de la mort. Ça reste quelque chose qui est évidemment émotionnel et sentimental. On écoutait de la guitare, j'ai vécu avec ça depuis toujours. Il se trouve que je suis né à Casablanca, et donc dans la rue, à la maison, partout, j'ai toujours entendu parler à la fois le français, l'arabe et l'espagnol. Donc ces trois langues me sont familières, et donc je n'ai jamais quitté... cette langue-là, elle m'a toujours habité. C'est quelque chose, comment dire, de profond qui ressurgissait à la faveur de tel ou tel événement. Et il suffit d'une madeleine musicale ou littéraire, parce que la poésie aussi a joué un grand rôle.
Alors, vous lisez beaucoup pendant la préparation, la propédeutique de cette recherche de nationalité. Vous reprenez aussi un périple à l'intérieur de l'Espagne. Vous avez été très sensible à l'Espagne intérieure qui est encore plus déserte, beaucoup plus déserte que ce qu'on appelle la diagonale du vide en France. Et là, vous avez entendu dans les rues silencieuses et désertes le murmure des Juifs d'autrefois.
Oui, il y a deux phénomènes. C'est d'une part la lecture d'un livre paru il y a 2 ans en Espagne qui a fait énormément de bruit là-bas, de Sergio del Molino, qui s'appelle « L'Espagne vide ». L'Espagne vacía. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement, je me suis aperçu dans mes voyages, moi je voyage exclusivement en autobus, en train, et je ne conduis pas, donc voilà, et puis à pied.
Et à vélo. Et quand vous avez un vélo, vous perdez les clés. Enfin, on ne va pas revenir sur le thème littéraire des clés.
Mais c'est comme ça qu'on arrive à rencontrer des gens, à bavarder. Et j'ai été très frappé de voir des villages vides, complètement vides, abandonnés. Il y en a énormément, beaucoup plus que dans... Il y en a en France aussi, mais beaucoup plus. À telle enseigne qu'il y a des blogs consacrés au sujet des villages abandonnés, et qui s'appellent comme ça. Et donc ça m'a frappé parce que il y a un côté village fantôme, un peu de western, etc. Mais même dans ces villages ou dans des villes pas du tout abandonnées, comme Valladolid ou Saragosse ou Valence, où je me suis promené la nuit, j'ai ressenti la même chose que j'avais ressenti il y a plusieurs années en errant en Europe centrale pour le besoin de mon livre qui s'appelait Golem. en République tchèque, mais aussi notamment en Roumanie. Bon, je me souviens d'une phrase qui m'est revenue là, d'un antiquaire à Iași, deuxième ville de Roumanie. Il m'avait dit, en bavardant, il me dit, vous n'avez pas remarqué quand vous vous promenez dans les rues sont pleines de juifs qui ne sont plus là. Eh bien, j'ai ressenti ça aussi en Espagne. Parce que les juderías, c'est-à-dire les quartiers juifs, je ne dis pas les ghettos, il n'y avait pas de portes, il y en avait partout. Aujourd'hui, on essaie de les ressusciter, on essaye de retrouver le passé juif de l'Espagne pour le mettre en valeur. Quand je dis on, c'est les offices du tourisme. Et parfois, ça marche, comme à Cordoue, effectivement, c'est un peu trop ripolliné à mon goût, un peu trop touristique. Mais quand on y va la nuit et que tout est fermé, ce sont des quartiers qui sont morts, pour une bonne raison. C'est que leurs vrais habitants d'autrefois ne sont plus là. Mais la présence est très très forte. Il y a une imprégnation. Si on doit parler du génie des lieux, eh bien c'est bien à cette occasion-là.
Après tant d'efforts et de voyages, on va voir si vous êtes très compétent, enfin, en culture espagnole. Vous allez nous raconter comment vous avez passé le test. Il ne faut pas imaginer que les Espagnols sont plus exigeants que les Français. Il y a aussi des tests de culture française chez nous pour qui veut acquérir notre nationalité.
Il n'y a plus qu'à me prouver que vous êtes Français. D'après les historiens, tout le monde s'accorde à dire que Charles Martel, en 732, marchèrent sur Poitiers. Je veux dire que t'es à Poitiers. Les Arabes s'engouffrèrent au Futuroscope. Charles Martel, fort de son apanage, Luc d'Aquitaine déjà à l'époque, leur dire « Non, non, vous ne rentrerez pas au Futuroscope. Moi, Charles Martel, Luc d'Aquitaine, je ne vous laisserai point rentrer en ce territoire. »
Comment fait-on le bœuf bourguignon, monsieur ?
Il faut 500 grammes de bourguignon et 200 grammes de bœuf. Vous mélangez dans une marmite, vous laissez cuire à feu doux, une pincée de coriandre, du sel, un filet d'huile d'olive, pas obligé, et du vin rouge, jamais de vin blanc.
Politique ?
Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac Delmas, Raymond Barre.
Spa ?
Raymond Coppa, Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry.
Breville ?
Mon vélo ! Alors là, ça c'est mon vélo !
Vélo avec une clé, bien sûr. Seigneur Assouline, combien de prix Nobel de littérature espagnole ?
Mon Dieu, ça commence les questions. Il y avait Vicente Aleixandre, et puis il y en a eu en médecine aussi, non ?
Oui, mais en littérature.
Ben, Camille José Cela, ça en fait déjà deux.
Je me demande s'il n'y en a pas eu cinq.
Mais est-ce que vous comptez ceux de langue espagnole ou espagnole ?
Dites-moi, ne faites pas de compte de notaire, parce qu'il faut passer chez un notaire.
Ça, c'est le comble.
Au final.
C'est le comble, parce que j'ai tous les papiers. Hein, et puis je rappelle quand même que ma demande, elle est symbolique. Parce que j'ai déjà un passeport européen en étant français. Et fiscalement, ça n'a aucun intérêt d'être espagnol. Donc tout ça est symbolique. Et en fait, j'ai tous les papiers, ils ont été transmis. Et l'acte final, c'est un notaire qui doit recevoir le candidat, lui faire passer un examen pour juger de son attachement à l'Espagne. Ce que je trouve absurde, car les notaires ne sont pas faits pour ça. Et c'est eux qui donnent le coup de tampon sur le passeport. Eh bien, mon notaire... Et il ne daigne pas me donner le rendez-vous, j'attends. Il n'a pas l'air pressé.
Question de provocateur, j'essaye d'être à votre école, puisqu'il paraît que vous êtes un provocateur né. Comment Israël voit-il tout cela ? Une autre terre promise ?
Non, mieux que vous ne le croyez. D'abord parce qu'il n'y aura pas concurrence. D'abord, cette loi du retour, comme je l'appelle, ne peut pas concurrencer la loi du retour israélienne, parce que le but est différent. Et vous savez, n'oubliez pas, une grande partie des Israéliens vivent à l'étranger. Hein. Donc... Ça ne les a pas choqués. Et puis, vous savez, à ce jour, il y a eu en tout et pour tout environ 1500 personnes qui ont obtenu, avec cette loi, leur passeport espagnol.
Oui, mais enfin, Israël pourrait dire, Assouline, comme vous nous avez manqué. Retour à Sepharad, un livre de Pierre Assouline. Cette émission a été préparée par Elinka Negulesco, avec le recours à une émission de France Culture consacrée au Sepharad, signée Mariella Damian. À la réalisation, Audrey Ripouille, la technique, Julien Chabassu.